Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Le bac philo, une affaire, que dis-je, un monument national, un rite de passage qui marque la vie d'un élève de terminale, un bac qui donne des sueurs froides aux candidats et à leurs familles, pour beaucoup mercredi prochain une boule au ventre et comme une sensation de chuter dans le vide, comme dans le célèbre générique de la série Mad Men, une épreuve qui peut rendre fou par l'ampleur de la tâche, avec la sensation de ne pas pouvoir y arriver. Face à la montagne du bac philo, petite révision, des conseils prodigués tout au long de l'année par les profs, méthodologie, exemple de dissertation, conseils pour gérer son stress, des experts vous délivrent ce matin leurs clés pour réussir l'épreuve reine qui parachève les études secondaires. Et puis, n'hésitez pas à nous raconter vos souvenirs du bac philo. Nous attendons toutes vos questions et témoignages par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Pauline et Adrien attendent vos coups de fil.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour.
Comment ?
Je tire un sujet ?
Sartre.
Comme le département ?
Ah non. François Sartre ? Jean-Paul, je savais.
Jean-Paul Sartre.
J'ai bon ?
Oui, bon. Alors Jean-Paul Sartre est un philosophe.
Hein ?
Comment ?
Qu'est-ce qu'il a écrit ?
Oui,
c'était pas un peintre.
Sartre, hein.
Alors, Sartre, hein, parce que...
Ah, s'il a écrit, bon, Les Misérables, c'est pas lui, c'est Goethe.
La Bible, non, comme pas écrit la Bible, non, de toute façon, c'est après.
Les mains sales,
ça a été le premier à avoir écrit Les Mains Sales.
Comment ?
Quoi d'autre ? Je m'excuse, j'ai pas tout noté.
Comment ?
Est-ce que j'ai terminé ? Ça veut dire que je l'ai pas, j'ai toujours pas. Oh, bon, madame.
Un sketch d'Albert Dupontel en 1992 avec nous pour nous délivrer quelques conseils pour réussir le bac philo. Notre prof de philo maison, Thibaut de Saint-Maurice, bonjour.
Bonjour Ali.
Dans la vraie vie, vous êtes enseignant dans un lycée de la région parisienne, au lycée Romain Rolland à Goussainville, et vous avez publié 2 tomes de philosophie en série. Bonjour Martin Legros.
Bonjour.
Philosophe, rédacteur en chef à Philosophie Magazine, Philomag qui publie un indispensable guide de survie au bac philo. Bonjour Aïda.
Bonjour.
Vous êtes normalienne et vous enseignez la philo au lycée Alain du Vésinet dans les Yvelines et vous avez publié chez Ellipse 16 textes clés pour réussir le bac philo. Autour de la table, quel souvenir gardez-vous de votre bac philo ? Allez, Thibaut de Saint-Maurice.
Un souvenir de stress, hein, de jeune lycéen, donc stressé. C'était pas du tout ma matière forte, enfin.
Ah bon ?
Non. Et du coup, j'avais d'autant plus de stress là-dessus. Je m'étais plutôt concentré sur les lettres et l'histoire géo, enfin voilà. Donc voilà, grande inquiétude et puis un grand soulagement à la sortie. Et en même temps, j'ai eu l'impression pendant les 4 heures d'être à mon affaire, c'est-à-dire de passer le stress de l'épreuve. Voilà, on avait eu des cours, j'avais un peu travaillé. Donc j'étais pas en perdition pendant les 4 heures.
Vous vous souvenez du sujet ?
Si la justice est relative au temps et au lieu, peut-on si le droit est relatif au temps et au lieu, peut-on renoncer à une justice universelle ? Un truc comme ça, vaguement.
Aïdan Diaye, est-ce que vous vous souvenez de votre bac philo ?
Oui, quand même, un peu vaguement. Pareil, je pense que c'est une épreuve qui est assez stressante. En plus, en terminale L, le coefficient fait qu'il y a un enjeu qui est quand même assez énorme. Et de la même manière, moi, je pense que j'étais assez contente de ce que j'avais fait. J'étais sur le moment, une fois que on est en train de composer, le stress peut quand même diminuer un petit peu.
Bonne note ou pas ?
Oui. Je crois que j'ai eu 17.
Ah, pas mal. Martin Legros, il existe en Belgique l'équivalent du bac philo, parce que vous êtes belge.
Exact. Il existe un cours de morale où il y a un enseignement philosophique qui est sanctionné chaque année par un examen. Donc on n'a pas cette institution à la fois terrifiante et fascinante comme le baccalauréat. Et j'ai eu, moi, je me souviens très bien, une très belle question sur une forme de dissertation. La question était, peut-on être libre sans les autres ? Et j'ai le souvenir d'avoir, je ne sais pas si j'ai été bien noté, mais j'ai le souvenir d'avoir pu me lâcher, d'avoir vraiment pu me saisir du sujet.
Alors pourquoi le bac conserve-t-il encore un statut particulier en France, Thibaut de Saint-Maurice ? C'est une sorte de rite de passage qui rassemble tous les élèves de terminale, quelle que soit leur filière.
Oui, alors pas quelle que soit tout à fait leur filière, parce que c'est une épreuve qui n'est pas une épreuve du baccalauréat professionnel. Mmh. Ça concerne les lycéens généraux et technologiques. Alors moi, je pense qu'une des raisons, c'est que la philosophie est en fait une discipline qui... pédagogiquement, scolairement, dans l'institution, en fait, a été très peu réformée. Bien sûr, il y a eu quelques ajustements dans le programme, etc. Mais globalement, c'est un enseignement qui, depuis une cinquantaine d'années, n'a pas beaucoup changé. Et donc, et ça change lentement. Et du coup, une fois que nos enfants arrivent en terminale pour passer le bac, en fait, il y a quand même des choses, des points communs. Alors que j'imagine que en histoire géo ou en langue vivante ou en sciences, les choses ont beaucoup changé. Donc ça, je pense que c'est intergénérationnel d'emblée, ça crée tout de suite du lien.
Aïda Ndiaye.
Je pense que ce qui est aussi marquant pour les élèves, c'est le fait que c'est une épreuve qui arrive alors qu'ils n'ont eu qu'un an dans la discipline. Donc ils ont à peine le temps de se faire à cette matière qui pour elles est quand même toujours un peu, enfin pour eux pardon, est toujours un peu bizarre. Ils ont peut-être pas beaucoup composé non plus dans la matière, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire des devoirs en 4 heures. Et en histoire-géographie, par exemple, comme l'épreuve est divisée en histoire et géographie, ils peuvent, sur des créneaux de 2 heures, les faire composer régulièrement dans l'année. Pour nous, c'est beaucoup plus compliqué à organiser. Et donc, c'est très rapidement pour eux, sachant que l'année scolaire dure en réalité 6 mois, sanctionné par l'examen. Donc évidemment, ça génère un stress quand même énorme.
Et la semaine prochaine, j'ai l'impression que c'est la France entière qui va passer le bac philo. D'ailleurs, le matin de l'épreuve, radio et télévision dissertent sur les sujets, Thibaut Saint-Maurice.
Oui, ça m'a toujours fasciné. C'est la façon dont les sujets de philo font l'ouverture des journaux à 13h, à 20h, etc.
C'est génial.
C'est génial. En fait, je crois que c'est pas le cas des sujets de maths ou d'histoire ou d'anglais, toujours. Et je crois que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire aussi qu'il y a, alors en France, mais sans doute pas que, mais en tout cas en France, la philosophie arrive à articuler d'un côté, c'est une discipline universitaire un peu austère, un peu technique. Et de l'autre côté, la philosophie, c'est une vraie culture populaire. Et pas pour de mauvaises raisons, et plutôt pour de bonnes raisons, c'est plutôt enthousiasmant. Et je pense que d'avoir un philosophie magazine qui a autant de succès, qui est aussi pertinent, c'est pas pour rien. Ça veut dire voilà qu'il y a une vraie culture populaire de la philosophie en France.
Alors Martin Legros, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une grande cérémonie laïque que nous passons tous réellement pour les élèves et par procuration pour tous les autres qui l'ont peut-être passé.
Oui, ce que disait Thibaut est très juste, je crois. C'est Philosophie Magazine existe parce qu'il y a ce public qui est passé par le bac et qui a une culture philosophique. C'est pas le cas dans tous les pays européens. On admire la France pour cela. Et je dirais, moi, ce qui me semble très sensible, c'est que la philosophie, qu'elle soit la première épreuve, c'est le message implicite est de dire aux élèves, tout le savoir que vous avez accumulé, c'est bien que vous l'ayez accumulé, mais il n'a qu'une fonction finalement, il a une fonction fondamentale, c'est d'être capable de penser par vous-même. C'est-à-dire d'utiliser, de mobiliser toutes ces références, tout ce savoir, pour argumenter, pour penser, développer une argumentation par vous-même. Et cette capacité qu'on exige de vous, elle est fondamentale en tant que vous allez exercer le métier de citoyen et que vous avez à avoir besoin de ces capacités-là pour discriminer les opinions. On est englobé par des opinions compactes, massives, par des gens qui prétendent que la vérité et le mensonge séparés, etc. Et la philosophie en France est cet outil du citoyen pour être un citoyen accompli. Et je trouve que c'est important, c'est très beau.
Aïda Ndiaye.
Oui, c'est juste. Et d'ailleurs, je pense que c'est assez dommage. Je trouve souvent les élèves ne se saisissent pas de tous les savoirs qu'ils ont dans les autres disciplines pour alimenter leur copie de philosophie. Un élève de ES, par exemple, qui a des cours de sciences économiques et sociales, il peut utiliser de la sociologie, les élèves de L, la littérature, enfin tous, effectivement, toutes ces connaissances accumulées qu'on essaie de rassembler pour traiter des problèmes.
Thibaut Saint-Maurice.
Oui, je suis d'accord. Et puis, il faut aussi dire, il y a cette fonction, on va dire, civique de la philosophie est importante, mais il faut dire aussi que pour les élèves qui terminent leur enseignement secondaire, c'est l'occasion de rencontrer des questions qui, en un sens, n'ont rien de scolaire, qui sont, voilà, est-ce qu'il est possible d'être heureux, comment, je sais pas moi, désirer sans en restant libre, suis-je vraiment ce que j'ai conscience d'être, enfin voilà, des grandes questions métaphysiques, fondamentales, etc., mais qui, en un sens, sont extrêmement toujours concrètes, intimes, et créent des résonances aussi à un âge dans lequel on a, une, comme on dit, la vie devant soi, l'âge des possibles, etc. Et donc, je pense que, en fait, les élèves sont souvent un peu inquiets de cette discipline, et en même temps très attirés par le fait que, enfin, on va pouvoir respirer et parler aussi un peu d'autre chose.
Est-il trop tard pour réviser quand on n'a pas beaucoup travaillé dans l'année, Aïda Ndiaye?
Alors, non, je ne pense pas. Moi, je pense que les révisions de dernière minute, c'est très bien, que ça peut fonctionner, a fortiori si le sujet qui tombe est celui qu'on a révisé en dernière minute. Et voilà, enfin, il n'est jamais trop tard tant que l'épreuve n'a pas commencé. Après, il faut avoir des cours, donc c'est un peu le problème, mais ça n'est pas trop tard, bien sûr.
Thibaut Saint-Maurice.
Je pense, alors, je dirais quand même qu'il est un peu tard. Il est un peu tard pour engager des révisions approfondies et réussir son épreuve avec tout le travail de l'année. En revanche, effectivement, il n'est pas trop tard, et même la veille, il ne sera pas trop tard pour une révision révision de dernière minute, mais une révision de dernière minute, c'est une révision du coup où on relit pas l'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement efficace en la dernière minute. Il faut aller piocher quelques textes qu'on connaît déjà un peu bien, qui nous font pas trop peur. Il faut avoir des références qui soient efficaces, des définitions, des choses comme ça. Il faut que ce soit extrêmement efficace en dernière minute.
Et on reviendra tout à l'heure sur le rôle des parents hein, pendant cette période, cette ultime période de révision. Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Grand reporter de l'émission. Alors, vous avez rencontré des élèves qui révisent leur bac. On écoutera votre reportage tout à l'heure.
Oui, je suis retourné sur les bancs de l'école. Ça a été un peu une souffrance. Hein, parce que moi, c'est plutôt les maths, la physique et la bio. Mmh. Et voilà, j'ai rencontré trois élèves qui travaillent d'arrache-pied pour décrocher le sésame de l'épreuve de philo.
Vous vous souvenez, Antoine Lee, de votre bac philo tout début des années 90?
Oui, c'est ça. Ça remonte à loin. Bah, je me souviens juste de la note. 11 sur 20, mais incapable de vous dire le sujet.
Eh ben, pareil pour moi, je suis incapable de vous redire le sujet de mon bac philo.
Parce qu'on est de la même génération.
Voilà, à peu près. Enfin, précisément même. Question, témoignage, 01 45 24 7000, grand bien vous fasse, @radiofrance.com. Une émission préparée par Alexia Rivière et Alice Jacquelin avec l'aide de Clara Marliot et c'est réalisé par Claire Destacan.
Flèche en opale, dans mon ovale, tout métal au visage pâle, drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Flèche en platine dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline, drôle de fleur, un indien dans mon corps. C'est lui, l'amour de ma vie. Je sais que c'est lui. Le jour comme la nuit, je suis à lui. Flèche une aurore dans mon décor, casque d'or au cuir sonore, drôle de bête, un indien dans ma veste. Flèche pas farouche, fou bouche à bouche, du genre.
Juliette Armanet, l'Indien.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h21 et une semaine avant le bac philo, nos invités proposent quelques derniers conseils aux élèves et à leurs parents et grands-parents et à toute la famille avec Aïda Ndiaye, Thibaut de Saint-Maurice et Martin Legros, parce que c'est une histoire de famille, le bac philo, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, en tout cas, de ce que me rapportent les élèves, c'est quelque chose qui concerne toute la famille, qui stresse aussi les parents. Alors, les parents que moi j'ai pu rencontrer cette année étaient aussi très concernés par le bac de leur enfant, avec cette inquiétude qui était assez présente, qui était de dire mais comment faire pour réussir alors que ça ne fait qu'un an qu'ils auront cours, la nouveauté, on va dire, de la discipline, voilà, posait beaucoup de questions. Voilà, mais en même temps, je pense que c'est important que ce soit les élèves qui, 17-18 ans, quittent le système de l'enseignement secondaire. Je trouve ça important que ce soit aussi une façon pour eux de se dire bon voilà, c'est mon bac, c'est mon épreuve, etc. C'est l'occasion peut-être de réajuster un peu la façon dont les parents ont été impliqués ou pas impliqués dans le parcours scolaire.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut délivrer quelques conseils généraux avant l'épreuve du bac, Thibaut de Saint-Maurice?
Alors de façon très très générale, il me semble que il faut avoir une vie équilibré. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des épreuves. Il va quand même falloir enchaîner plusieurs épreuves, plusieurs déplacements, du stress. Donc il faut être quand même en bonne forme.
Voilà. Dormir.
Il faut dormir. Il faut s'alimenter convenablement. Il faut aller aussi faire des pauses, faire du sport ou se détendre. Aller
marcher,
faire une partie de PlayStation. Enfin, il faut se détendre. Je pense qu'il faut se concentrer, mais longtemps à l'avance. Voilà, il faut être en vue de l'objectif, en vue des épreuves, pas la veille pour le lendemain, mais y penser déjà 2-3 semaines avant. Donc là, on est une semaine avant. Voilà, garder ça en tête. Se concentrer vraiment, ça prend un peu de temps.
Aïda Ndiaye.
Après, pour l'épreuve elle-même, je pense que le conseil important, moi, que je donne à mes élèves, et je pense que ça dépend un petit peu des élèves, mais c'est de bien exploiter le temps qu'il leur est donné. Je pense qu'ils n'ont pas conscience que les 4 heures sont pas un temps purement de production en fait écrite, mais aussi de réflexion, et que la quantité en fait d'idées, de réflexions qu'ils peuvent produire dépend du temps qu'ils y consacrent. Moi, je vois beaucoup d'élèves qui ne font pas de brouillon. Pas énormément, enfin ça arrive quand même, ou qui se mettent à rédiger très rapidement, qui quittent l'épreuve au bout d'une heure et demie ou deux heures, et c'est vraiment dommage.
On va revenir sur les étapes du bac philo. Allez, le sujet est tombé, l'élève a donc 4 heures devant lui, 3 sujets, des copies blanches, des brouillons colorés, et peut-être un grand sentiment de saut dans le vide, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, c'est vrai que la première chose à faire, c'est de choisir le sujet, puisque l'épreuve de philosophie, aussi bien en série générale qu'en série technologique, c'est un sujet composé lui-même de 3 sujets. Il y a le choix entre 2 sujets de dissertation et une explication de texte. Moi, je dis à mes élèves, le premier quart d'heure, les premières 20 minutes sont consacrées au choix du sujet.
Et il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet, a priori.
Non, alors voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet, il n'y a pas de sujet plus difficile. Ça, c'est compliqué de dire que la disserte est plus difficile que l'explication de texte ou l'explication de texte plus difficile que la disserte. Et entre les 2 sujets de dissertation, globalement, en moyenne, dans toutes les années précédentes, les 2 sujets sont d'égale difficulté. En revanche, en fonction de chaque élève, il y aura des sujets qui seront plus faciles à traiter ou pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas tous eu le même cours. Et donc, il faut savoir ce qu'on a appris. Et puis, aussi, on n'a pas forcément les mêmes affinités ou les mêmes intérêts ou les mêmes goûts pour telle ou telle notion. Voilà, si on préfère travailler sur l'art que sur l'expérience ou sur la liberté plutôt que sur la conscience, d'accord, très bien. Mais et donc voilà, en fait, il faut aussi aller à l'épreuve en connaissant ses points forts.
Aïda Ndiaye, sur le choix des sujets.
Alors, je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est vraiment important de dire qu'il faut qu'ils y consacrent 5-10 minutes. L'une des choses, je pense, qu'ils ne font peut-être pas suffisamment, c'est de bien lire le texte, de le lire plusieurs fois, parce qu'on peut avoir une impression à une première lecture.
Analyser de façon très précise les termes de l'énoncé.
Alors pour la dissertation, oui. Après, effectivement, du coup, une fois qu'on a choisi le sujet, le temps dont je parlais tout à l'heure, qu'ils, à mon avis, peuvent exploiter vraiment, ça peut prendre 2 heures en fait au total. C'est l'analyse, la problématisation avant la construction du plan. Je pense que en fait, la première question que se posent les élèves quand ils voient un sujet et qui les fait paniquer, c'est qu'est-ce que je sais sur ce sujet. Et immédiatement, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui reviennent à l'esprit, donc ils paniquent, ils disent je sais rien. Alors qu'en réalité, effectivement, le point de départ doit être le sujet. sujet, d'analyser les termes, la formulation, peut-être les termes qui ne sont pas forcément les notions du programme, mais qui sont des termes du langage courant, dont ils peuvent trouver des définitions assez facilement, et en fait partir de là pour accéder à leurs connaissances et les mettre en valeur et les utiliser aussi de manière liée au sujet, parce que c'est le problème de la dissertation.
Sur l'énoncé du sujet, Thibaut de Saint-Maurice, il faut peut-être s'étonner du sujet, de sa formulation, repérer les tensions que renferme l'énoncé.
Exactement. Moi, j'ai donné, par exemple, cette année à mes élèves, c'est un sujet avec lequel souvent je commence l'année, qui est « Un monde sans travail est-il souhaitable ?» Voilà. Et donc, si ce sujet tombe dans le bac, par exemple, effectivement, la mauvaise première réaction serait de dire « Qu'est-ce que je sais sur le travail ?» Parce que, du coup, on oublie un peu la particularité du sujet. Il faut s'étonner que la question puisse se poser. Et se la poser vraiment soi-même. Voilà. Est-ce qu'il est vraiment souhaitable? Est-ce que je voudrais vivre? Est-ce que je souhaiterais vivre dans un monde dans lequel il n'y aurait plus de travail? Qu'est-ce que serait un monde dans lequel il n'y aurait plus de travail? Etc. etc. Et donc, oui, l'étonnement, c'est l'acte fondateur de la réflexion philosophique. Pas l'étonnement naïf de celui qui ne sait rien, mais le fait d'être capable de s'étonner de ce que l'on croyait savoir ou de ce qui nous paraissait évident. Voilà. Et ça, je pense que c'est la première qualité du candidat, c'est de prendre tout à fait au sérieux, et donc de s'en étonner, de prendre tout à fait au sérieux la question qui va être posée.
Le regard de Martin Legros, qui n'est pas enseignant en philosophie, mais qui a peut-être un avis sur la question.
Oui, moi je comprends la terreur des élèves quand les sujets tombent, et je crois la disposition mentale importante à adopter, c'est de ne pas se dire qu'il y a une copie parfaite, et que je serai le scribe de cette copie parfaite, et que je serai plus ou moins bon selon que je parviendrai à copier la copie parfaite, imaginaire. En fait, non, l'idée c'est que l'élève doit tracer un chemin dans cette question, un chemin original. Et donc, moi, je dirais aussi comme conseil, la question qui éveille, même si on dit toujours, il faut se prendre des distances, et bien entendu, la philosophie, c'est se distancier, être capable d'analyser, mais aussi choisir le sujet qui vous touche personnellement, pour lequel vous avez quelques expériences de la vie qui vous semblent pertinentes, pas à les mobiliser, il s'agit pas de parler de soi, mais pour creuser la question de manière un petit peu habitée.
Aidan Diaye.
Oui, je suis d'accord. Dans le choix du sujet, effectivement, comme je pense, on l'expérimente nous-mêmes quand on travaille, on est meilleur dans des sujets qui nous parlent. Après, je mettrais juste un petit bémol qui est il peut y avoir des notions pièges. Moi, j'avais donné cette année, par exemple, un sujet sur le bonheur et mes élèves se sont précipités dessus alors qu'à côté, il y avait un sujet sur le désir, je crois, qui était presque une question de cours. Et ils me disaient, mais en fait, le bonheur, on sait tous ce que c'est. Alors déjà, bravo. Et puis, par ailleurs, en fait, voilà, ils peuvent avoir l'impression, en fait, qu'ils connaissent ou qu'ils ont une expérience et du coup finir parfois par dire des grandes généralités alors que sur un sujet peut-être plus technique mais sur lequel ils ont eu un cours qui parfois et par chance tombe précisément au bac, ils peuvent être meilleurs.
Thibaut Saint-Maurice, quand on a choisi son sujet, qu'on l'a plutôt bien compris, il faut trouver une bonne problématique.
Oui.
C'est quoi une problématique?
Alors ça c'est... Je veux dire, c'est la question récurrente. On va essayer d'être le plus simple possible. Un sujet de dissertation se présente sous la forme d'une question. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de sujets de dissertation au bac qui sont donnés et qui n'ont pas une forme interrogative. Bon. La problématique, ça n'est pas la répétition de la question du sujet. En revanche, j'essaye d'expliquer aux élèves en leur disant la problématique, c'est le problème qui fait que je ne peux pas d'emblée répondre à la question. Si je vous demande, Ali, quelle heure est-il ?
Vous pouvez 10h30.
Voilà, si je vous demande quel est le président de la République française.
Macron.
Voilà, vous pouvez répondre, ce sont des réponses factuelles dans lesquelles on peut vérifier et se tomber d'accord, il n'y a pas de problème pour la réponse. Si je vous demande par exemple, changer, est-ce devenir quelqu'un d'autre ?
Vous me laissez 4 heures là ?
Voilà, c'est difficile de répondre d'emblée à cette question. Une question philosophique, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre d'emblée parce qu'elle pose problème. Et donc la problématique, c'est la capacité à passer de la question du sujet au problème que pose cette question, et donc il faut effectivement l'identifier.
Aidan Diaye.
Oui, donc effectivement, c'est toujours le problème. Ils ne savent pas. Enfin, c'est difficile de comprendre la différence aussi entre le sujet et la problématique. Or, la problématique, en théorie, doit être une reformulation du sujet. À mon avis, ce qui peut fonctionner pour problématiser, ce n'est pas comme je pense on le trouve parfois dans des ouvrages parascolaires, de partir de l'analyse des termes du sujet, ce qui les conduit en fait, s'ils les analysent séparément, à définir en fait les trois termes sans comprendre le sens global de la question. Donc moi je pense que c'est plus efficace, en fait, de partir de la question. Ce qui fait problème, en effet, c'est qu'on ne peut pas répondre immédiatement, donc il y a plusieurs réponses possibles. Et en fait, d'envisager ces différentes réponses, de voir les arguments qui soutiennent ces réponses, et en général, ça les conduit à voir que ces réponses différentes, elles reposent justement sur des définitions différentes des termes. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent arriver à l'analyse des termes du sujet, sans en partir, et en ayant toujours donc une approche globale du sujet, donc une problématisation globale, ce qui évite en fait les hors-sujets, c'est-à-dire de prendre un mot du sujet, je sais pas, désir par exemple, et de ne parler que du désir, et pas du désir dans le cadre du sujet tel qu'il est posé.
Bonjour Violette.
Bonjour.
Vous appelez d'où ?
Comment ?
Vous appelez de quelle ville ?
Je vous entends très mal.
Vous m'entendez là, Violette ? Moi je vous entends parfaitement.
Oui, je vous entends mieux.
Vous appelez de quelle ville ?
D'une toute petite ville, mais dans l'Ariège.
Très bien. Et vous avez 17 ans, vous passez le bac cette année ?
Oui.
Bon, et vous avez une question, à mon sens, très pertinente.
Alors, j'aurais voulu savoir si, sur une copie qui soit pertinente, il est vraiment nécessaire d'utiliser des citations. Parce que je trouve un peu bête de donner notre avis et en même temps de l'appuyer sur l'avis des autres. Si c'est notre avis, c'est le nôtre. Donc, utiliser des tout petits bouts de la pensée des autres, ça me semble un peu stupide.
Thibaut de Saint-Maurice.
Alors ça c'est aussi une question qui est excellente parce que c'est une question qui est posée généralement dès la première semaine de cours en terminale. Alors moi je répondrais que comment dire, l'obligation n'est pas d'utiliser des citations, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y aura des citations dans votre copie que vous aurez une bonne note. En revanche, je vous dirais que c'est un petit peu comme quand on part en montagne, on a parfois besoin d'avoir un guide. Parce qu'il y a des passages un peu délicats, on va marcher sur un glacier, on va passer sur des chemins un peu compliqués. Et à ce moment-là, on met bien ses pas dans les pas du guide et on suit bien le chemin que le guide emprunte. Et pour autant, quand vous arrivez au sommet, c'est bien vous qui avez gravi la montagne et vous êtes bien arrivé au sommet, l'effort il a été fait. Et pour moi, c'est un peu la même attitude qu'il faut aborder à l'égard des philosophes. Les philosophes ne pensent pas à notre place, ils nous aident à penser, à négocier des passages un petit peu compliqués. Et ce qui relève de votre pensée personnelle, c'est la façon dont vous avez organisé les étapes de votre raisonnement, d'avoir choisi Bergson plutôt que Kant, de vous appuyer sur une analyse de Spinoza plutôt que de Descartes et de privilégier la définition aristotélicienne de la justice par rapport à celle de Platon. Voilà, cette organisation-là et ces choix-là témoignent de la personnalité et de l'originalité de votre copie.
Violette, comment vous vous sentez à quelques jours du bac philo ?
Très stressée, mais je suppose que c'est normal. Mais par contre, pour réagir à ce qui vient d'être dit, il me semble que c'est beaucoup plus facile de penser par soi-même que d'apprendre par cœur la pensée de plein de philosophes qui ont vécu souvent il y a très longtemps. Et...
Aïdan Diaye.
Alors, je pense que déjà, on peut distinguer citation et référence. Je ne sais pas, en fait, si Violette parle de citations qui sont vraiment des extraits très courts, mot pour mot, entre guillemets, qu'on peut en effet apprendre par cœur. Les références, il me semble que ce n'est pas un travail de par cœur, en fait. C'est un travail au long cours, d'imprégnation, à force de lire, de relire des textes, de travailler en cours avec votre professeur ou toute seule des références philosophiques. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Thibault. En fait, les philosophes ne traitent pas les sujets de bac. Donc, le sujet, c'est vous qui allez le traiter, avec en effet une progression, une démarche qui est la vôtre. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est aussi un des intérêts principaux de l'enseignement de la philosophie en terminale, c'est que ça apprend à penser avec les autres, à ne pas confronter sa pensée à celle des autres, mais au contraire, à penser collectif, si je puis dire, et à utiliser la pensée des autres pour enrichir la vôtre. Donc, en fait, si vous faites un exposé toute seule, vous aurez forcément moins de matière que si vous le faites à plusieurs. Et on peut considérer que dans une dissertation, vous vous aidez de la pensée des autres pour enrichir votre propre démarche intellectuelle.
Merci beaucoup, Violette. Et je vous souhaite bonne chance pour le bac philo la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir appelé. Alors, Thibaut de Saint-Maurice, Aïdan Diaye, on a choisi son sujet, on a formulé une problématique. Et ben après, il faut évidemment rassembler ses connaissances et puis il faut construire un plan. Hein, qu'est-ce qu'on fait dans le déroulé de l'épreuve comment ça se passe ?
Alors effectivement, le plan, le fameux plan, il me semble qu'il faut le comprendre comme étant les étapes par lesquelles il va falloir que la pensée, que le raisonnement passe pour pouvoir apporter une réponse à la question. Et donc pour pouvoir apporter une réponse à la question, il faut avoir trouvé une solution au problème. Bon. Alors, il y a le mythe indéboulonnable du plan en thèse, antithèse, synthèse, que les élèves traduisent le plus souvent en oui, non,
bof.
Peut-être bof, un peu des deux, ça dépend. Très souvent, on a en troisième partie, ça dépend des cas. Voilà.
C'est le plan normand, non?
C'est, ouais, en fait, c'est un plan qui a l'air d'être rassurant, qui
a des
origines strictement philosophiques. Hein. C'est un plan hegelien, en fait, mais qui est très très difficile à manier. Et donc, moi, je déconseille très fortement l'utilisation de ce plan.
Qu'est-ce que vous conseillez alors?
Alors, je me risque à conseiller une démarche en un sens beaucoup plus simple et peut-être beaucoup plus proche de la façon dont la question se pose. Je conseille de partir en première partie de la réponse qui nous paraît la plus évidente, qui paraît être celle de la réponse, de l'opinion commune, ou des apparences, ou des observations que l'on peut faire, et qui peuvent être appuyées par, d'ailleurs, des observations partagées par des philosophes. Puis, dans une deuxième partie, d'en faire une partie critique, d'envisager les raisons pour lesquelles on ne peut pas s'en tenir à cette première version de la réponse, pour pouvoir ensuite, dans une troisième partie, expliquer pourquoi un et deux ne sont pas d'accord, et proposer là, de façon originale et personnelle, comme le disait notre auditrice, une solution. Et cette solution, on la tire pas du chapeau, on peut aller la puiser dans les différentes façons que les philosophes nous ont données pour répondre à cette question.
Aïda Ndiaye.
Je pense aussi qu'on peut peut-être se dire que les élèves peuvent faire des plans en deux parties. Il faut pas non plus qu'ils s'accrochent au plan en trois parties, parce que des fois, ils n'ont pas suffisamment de matière. Et mieux vaut un plan en deux parties bien équilibré qu'un plan en trois parties avec une troisième partie embryonnaire, enfin, un peu pauvre. Donc, je suis d'accord avec ce qu'a dit Thibault. L'important, c'est que ce soit une démarche qui progresse vers une réponse et donc que la dernière partie soit la partie de la réponse. Parce que parfois, on trouve aussi des copies où la réponse est dans la deuxième partie, donc ça n'a plus trop de sens. Et je voudrais juste distinguer avec l'explication, parce que du coup, le travail du plan n'est quand même pas du tout le même. C'est vrai que pour la dissertation, il est vraiment important qu'il consacre un temps important, précisément, au plan. C'est vraiment, ça fait partie de l'exercice, c'est vraiment la construction d'une argumentation. Il peut avoir plein de matières et un mauvais plan, enfin, les deux ne seront pas forcément liés. Pour l'explication, je pense que le travail est assez différent, l'explication de texte, oui. Puisque, à partir du moment où on a compris le texte, en théorie, on a compris son mouvement et comme... En général, on fait un plan linéaire, on voit pas trop pourquoi on ne le ferait pas. Au terme du travail d'analyse du texte, ils ont et le plan du texte et donc le plan de leur explication. Donc il y a moins de travail technique vraiment de construction et d'architecture du plan.
Alors Violette, notre auditrice, posait la question des citations. Est-ce qu'on peut truffer sa dissertation, son commentaire de texte, de références culturelles, s'appuyer sur des séries télé, sur des références de culture populaire, chansons, BD, si le raisonnement s'y prête, Thibaut de Saint-Maurice? Est-ce que c'est risqué ou pas?
Alors, honnêtement, ce qui est risqué, c'est de faire une référence culturelle, quelle qu'elle soit, sans savoir ce qu'on va en dire. Moi, j'ai une règle simple, je dis à mes élèves, il n'y a pas de citation, pas de référence, pas d'analyse, il n'y a aucun élément extérieur que vous apportez dans votre copie qui ne soit pas suivi d'une analyse. Voilà. La citation sans analyse, la référence sans analyse, ça n'a pas d'intérêt. Donc oui, moi, je vais pas être, je vais être celui qui va vous dire qu'on peut parler de série télé dans une copie, mais comme on parlerait de la Comédie humaine ou des Rougon-Macquart.
Et l'actualité, elle a sa place dans la copie de philo?
Alors moi, on déconseille quand même aux élèves de le faire, parce qu'en général, ils n'ont pas, comme nous d'ailleurs, pas toujours suffisamment de recul pour produire une analyse en fait qui tienne. Donc ils vont répéter ce qu'ils ont entendu dans les médias, ce qu'ils ont pu lire à droite à gauche. Et c'est vrai que là, par exemple, les élèves me posaient la question sur l'élection présidentielle. Je leur ai dit, vous n'en parlez pas. Du coup, je pense que c'est risqué.
01 45 24 7000 pour poser toutes vos questions sur le bac philo. Dans quelques minutes, le reportage dont qui a rencontré des élèves de terminale qui révisent leur bac philo. Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share. When they all should let us be, we've been.
Bee Gees.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
11h moins le quart et une semaine avant, le bac philo nous invite et propose aux élèves quelques derniers conseils. Les profs en lycée, Aïda Ndiaye et Thibaut de Saint-Maurice et Martin Legros, rédacteur en chef à Philosophie Magazine, et avec Antoine Lee, grand reporter du quotidien. Vous avez suivi, Antoine, des élèves qui révisent leur bac philo en ce moment, évidemment.
Oui, il s'agit de deux lycéennes et d'une jeune femme qui passe le bac en tant que candidate libre. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, elles ont choisi de prendre des cours intensifs avec l'agence Acadomia, comme en propose aussi d'ailleurs les cours Legendre et Complétude. Et pendant 4 jours, ces 3 élèves vont suivre les conseils d'une professeure de philosophie. L'occasion pour nous de savoir ce que ces étudiantes pensent de cette matière et comment elles appréhendent l'examen qui les attend la semaine prochaine.
Je vais vous distribuer un texte de Descartes sur le bonheur. Donc dans les lettres à Elisabeth.
Je m'appelle Tess, je passe mon bac L cette année. La philosophie, c'est coefficient 7.
Donc grosse pression pour vous ?
Oui, bah tout va se jouer sur la philosophie en fait. J'ai une très bonne moyenne au premier trimestre qui était de 12-13 et puis je suis descendue à 8 pour le deuxième.
Est-ce que vous estimez que vous avez été suffisamment bien préparée tout au long de l'année en philosophie ?
Non, j'estime que j'ai pas été bien préparée. Je suis dans une classe où en L on est 30. Donc, faut savoir que la philosophie, il faut vraiment avoir du temps à accorder aux élèves parce que c'est compliqué. En plus, on n'a qu'une année. Je pense qu'il faut avoir du temps pour chaque élève et je pense qu'être 30 dans une classe pour un cours de philosophie, c'est plus handicapant, en fait, dans cette matière-là que dans les autres. Voilà. Ou à la limite, peut-être rajouter une année en philosophie, ça aurait été peut-être plus bénéfique. Mais j'ai beaucoup attendu cette matière. J'en attendais beaucoup plus. Je suis un peu déçue.
Réfléchir sur le sujet, c'est comprendre pourquoi est-ce que ce sujet pose problème. Construire une problématique, c'est ça, hein. C'est voir quels sont les sous-entendus. Et c'est en les mettant en lumière que vous allez trouver votre problématique.
Je m'appelle Léna et je suis en terminale L.
Comment ça se passe là, Léna, à quelques jours là, du bac de philo, comment vous vous sentez ?
Pas vraiment prêt. Je pense que je vais prendre le commentaire de texte parce que je suis hyper nulle. Je suis confiante parce que je sais que dans le commentaire de texte, c'est dur de complètement se lourder, mais ça va, je suis détendue.
Quelle était votre moyenne tout au long de l'année?
Je dirais 8,5-9.
Qu'est-ce qui est le plus dur, justement, en philosophie?
De réfléchir, c'est pas comme un exercice de maths où il y a une bonne réponse. Là, c'est un travail de réflexion pendant 4 heures. Ton cerveau, il va exploser. Enfin, la concentration, bah, c'est plus compliqué.
C'est important de lire le sujet 2-3 fois. Profiter pour repérer les mots intéressants, par exemple, libre arbitre, doute. Repérer, comme je vous ai dit, les connecteurs logiques. Mais, si, aussi, ainsi, ça va vous aider à voir la structure du texte.
Je m'appelle Linda, j'ai 22 ans, je passe le bac en candidat libre dans la filière économique et sociale.
Pourquoi vous passez le bac en candidat libre ?
J'ai rencontré des problèmes parce que je m'ennuyais à l'école. Moi, je pense avoir été un peu déçue de la philosophie à l'école. On s'attend à vachement développer sur notre expérience, sur ce que l'on pense. Et au final, on se retrouve à devoir suivre un plan super méthodologique, à apprendre que Pascal a dit ceci, que Aristote a dit cela, et que c'est comme ça qu'on doit s'axer pour bien répondre, avoir une bonne note.
Vous, comment vous préparez? Vous avez des petites astuces, des petits secrets?
Moi, je me suis préparée en lisant des copies d'élèves. Et c'est comme ça que je me suis basée pour lire une introduction, un développement, une conclusion, combien de citations il fallait donner, si on avait le droit un peu de partir dans notre argumentation. Je me suis vraiment basée sur le travail des autres.
Bon courage, merci.
Reportage signé Antoine Ly. Petit commentaire, Martin Legros.
Je trouve ça terrible. Il y a une attente. On voit qu'il y a une attente, que c'est un moment qui est attendu, avec pas que de l'angoisse, de vraiment une attente de quelque chose, d'un moment où on va penser, on va apprendre à penser, etc. Et au bout des courses, alors c'est peut-être des expériences très particulières. C'est toujours particulier. Le sentiment d'un formatage. On leur a imposé un format. On leur a plaqué sur leur désir d'apprendre et de penser un format préconçu. Qu'ils ont été incapables manifestement d'intégrer, d'intérioriser, de faire sien. Et donc il y a une sorte de décalage total. C'est triste.
Aïda Ndiaye.
Je voulais juste rebondir sur la personne interviewée qui disait qu'elle prendrait l'explication parce qu'elle était nulle. Et en réalité, c'est un très mauvais calcul parce que l'explication peut être plus dure puisque c'est quand même un texte qui est dans l'histoire de la philosophie et ça demande des connaissances en histoire de la philosophie importantes.
Thibaut de Saint-Maurice.
Moi, j'ai envie de dire qu'avant de pouvoir faire un concert au piano ou à la guitare, ben il y a quelques années d'apprentissage. Et c'est un peu pareil pour la philosophie, sauf que tout se passe en un an. Donc je comprends le choc, un peu la déception. Mais il faut bien apprendre. Il faut bien apprendre à philosopher. Enfin, il faut bien passer par des règles. Quoi.
Et on a un courriel de Rémi qui nous dit « J'ai entendu un philosophe dire que l'enseignement de la philo en France, c'était comme si on apprenait le solfège à un élève pendant un an et qu'on lui demandait de composer une symphonie à la fin. Bonjour Constance Flamand-Rose.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, merci beaucoup. Vous êtes docteur en neurosciences, vous êtes orthophoniste et hypnopraticienne. Alors, je vous ai demandé de nous délivrer quelques conseils en cas de stress pour les élèves anxieux, stressés. Ils peuvent peut-être s'appuyer sur une ou deux techniques d'auto-hypnose pour essayer de gérer ce stress, cette angoisse.
Oui, exactement. Alors moi, j'aurais deux petits conseils pour les étudiants et un pour l'entourage. Mmh. Alors, avant les épreuves, ce qui est très difficile, c'est de se coucher chaque soir en évoquant un souvenir de réussite. On a tous réussi quelque chose dans notre vie, que ce soit sportif ou même passer un niveau dans un jeu vidéo. Ça n'a pas d'importance le côté exceptionnel ou non du souvenir, mais se rappeler de la sensation qu'on a ressenti au moment de la fierté, de l'accomplissement, etc. Parce que finalement, c'est ça qu'on va chercher avec la réussite du bac, bien plus que tout ce qui va suivre par la suite, c'est ce plaisir-là d'avoir réussi. Donc se coucher en évoquant un souvenir de réussite avec nos cinq sens, à quel moment, à quel endroit, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ça permet de baigner comme ça dans la réussite et dans la fierté.
Et pour les parents qui stressent?
Pour les parents, les parents qui stressent, alors qui ne montrent pas leur stress, et puis qui modifient un petit peu leur vocabulaire. J'entendais la jeune fille qui disait « je suis nulle, je vais me vautrer », etc. Le cerveau retient ces mots-là extrêmement fortement. Si là, par exemple, je vous demande à tous de ne pas penser à un vélo, eh ben vous voyez tous un vélo.
Exactement.
Donc si on vous dit « ne t'inquiète pas », vous allez retenir « il n'y a pas de problème », vous allez retenir « problème ». Alors que si on dit « tout va bien, tu vas y arriver, tu vas réussir », C'est ces mots-là que le cerveau va retenir. Donc l'entourage, faites attention à vos mots et utilisez des mots positifs, il ne reste que 15 jours.
Vous êtes d'accord avec ça, Thibaut de Saint-Maurice ?
Ah bah oui, je pense que c'est, enfin en tout cas ça ne peut pas nuire et ça peut au contraire effectivement, je disais tout à l'heure, il faut se concentrer un peu longtemps à l'avance, la concentration c'est pas juste 10 minutes avant et je trouve que ça participe de cette concentration là.
Merci beaucoup Constance Flamand Rose d'avoir participé à cette émission. Bonjour Yanis.
Bonjour.
Vous appelez de Manosque, bienvenue et vous passez votre bac cette année ?
Oui, c'est ça.
Dans quel état vous êtes là ?
Assez stressé.
Assez liquide. Alors, vous avez une question?
Oui, alors la semaine prochaine, je compte prendre la dissertation. Mmh. Et je voudrais savoir ce que les intervenants préconisent en matière de gestion du temps, de passage au brouillon, et rédaction du plan et du propre.
Thibaut de Saint-Maurice.
Alors d'abord, la première règle, c'est d'envisager de travailler pendant les 4 heures. C'est-à-dire qu'il faut vraiment utiliser le temps complet qui vous est donné pour cette épreuve. Ensuite, moi j'aurais tendance à aborder les choses de façon assez simple, qui est la règle du 2-2. Voilà, consacrer 2 heures au travail sur le choix du sujet, la problématisation. Moi je tiens beaucoup, je crois beaucoup à la rédaction d'un plan détaillé au brouillon, et ensuite de consacrer 2 heures à la rédaction. Évidemment, si on n'a pas de plan détaillé au brouillon, la rédaction peut prendre plus de temps. Voilà, et puis vous terminez. Vous gardez les 10 ou 15 ou 20 dernières minutes pour une relecture intégrale de votre copie.
Yanis ?
Ça me semble, oui, très bien.
Vous avez une autre question, peut-être ?
Non.
Faites-vous plaisir, hein, allez-y. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance et de réussite pour votre épreuve du bac la semaine prochaine. Dans le guide de survie au bac publié par Philosophie Magazine, 7 péchés capitaux. Alors, je les cite, la récitation... Le catalogue de référence à éviter, le relativisme, le plan oui-non, je ne sais pas, qu'on a évoqué tout à l'heure, la suffisance, la certitude et leur sujet. Et vous, Thibaut Saint-Maurice, vous avez d'autres conseils concernant ces erreurs qu'on peut faire au moment du bac philo?
Oui, alors la liste est excellente. Je pense qu'elle pourrait être affichée au fond de ma classe toute l'année. Je dirais qu'il faut éviter quelques maladresses, parfois qui sont pas mal intentionnées, mais qui sont vraiment des maladresses. La première, c'est d'interpeller, par exemple, son correcteur.
Ça faut éviter.
Voilà, il faut éviter. C'est bon. Voilà. La deuxième, c'est de ne pas plaquer sur les auteurs des étiquettes qui sont en fait anachroniques. Dire que, par exemple, Marx était communiste ou que Descartes est cartésien.
Épicure était épicurien.
Voilà. L'élève peut être animé de bonne intention en disant, voilà, je vais essayer de dire un peu plus sur l'auteur, mais bon. En fait, c'est un peu maladroit. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même très, très important. C'est se soucier aussi. On a beaucoup parlé du fond, mais se soucier de la forme de sa copie. Donc, évidemment, l'orthographe, la langue, c'est-à-dire la grammaire, pas de phrases sans verbe, des phrases plutôt courtes, hein, parce que les phrases un peu longues qui développent des trucs dans lesquels on se perd, c'est, voilà. Et puis, aérer sa copie, bien marquer les étapes du raisonnement. Parce qu'après, quand on corrige, quand on a 150 copies, voilà, puis, ça fait la différence.
Et puis, éviter de confondre la dissertation de philo avec une tribune d'expression libre, Aïda Ndiaye.
Oui, alors effectivement, quand on dit il faut penser par soi-même, l'idée n'est pas, en effet, de juste poser sur la copie son opinion, mais vraiment de construire un raisonnement. À ce titre, d'ailleurs, je pense qu'on peut ajouter dans la liste des défauts à éviter la question des exemples qui sont souvent pas très bien choisis et pas très bien construits, et notamment parce que les élèves parlent de leurs expériences personnelles ou disent des grosses généralités comme il suffit de voir une femme enceinte pour savoir ce que c'est que le... Enfin, une femme qui vient d'accoucher plutôt pour savoir ce que c'est que le bonheur. ça nous ramène d'ailleurs à ce qu'on disait tout à l'heure sur la pop culture, sur les séries, le cinéma, la littérature, qui peuvent être une source d'exemple bien plus intéressant que ce qu'ils peuvent dire de leur propre existence.
Thibaut de Saint-Maurice, allez, prenons un exemple du bac philo 2016 pour les séries ES. Les erreurs à éviter sur ce sujet-là, savons-nous toujours ce que nous désirons ?
Il me semble que la première erreur serait d'en faire un sujet strictement, on va dire, psychologique. C'est-à-dire, quand je vais dans un magasin, je sais pas trop, j'hésite, je sais pas ce qui me ferait plaisir, etc. On peut parler de cette hésitation, de ces troubles du désir, etc. Mais il faut ensuite hisser la question à un niveau philosophique, c'est-à-dire identifier le problème, c'est comment est-il possible que je désire quelque chose sans le connaître? Voilà. Et donc se poser la question de la maîtrise que l'on peut avoir de ses désirs. Si on ne les connaît pas, qu'est-ce que serait qu'un désir que je ne connais pas, etc. Donc, en fait, souvent, il y a une sorte de premier rideau, un peu comme ça, psychologique, existentiel, on va dire, pour le dire vite, de la question, dont il faut tenir compte, mais pour le dépasser.
Aïda Ndiaye.
Oui, donc exactement. En fait, j'avais corrigé les copies sur ce sujet l'année dernière. Et en fait, c'est ce que dit Thibaut est juste. Les élèves confondent souvent le désir et l'envie. Donc, ils parlent des petites envies dans les magasins, les cadeaux de Noël, etc. Mais il n'y a pas d'analyse spécifique du désir. Ou alors, inversement, en effet, une récitation de cours sur le désir en général. C'est pour ça que j'ai tout à l'heure s'intéressé aux mots qui ne sont pas forcément les notions. Qu'est-ce que ça veut dire savoir? Pourquoi est-ce qu'il y a ce toujours, je crois, dans le sujet, etc.
Thibaut Saint-Maurice, pour terminer, un mot sur l'opération Le Bac Option Inter.
Oui, à partir d'aujourd'hui, sur le site de France Inter, vous pouvez retrouver donc des pages qui sont dédiées à la révision du bac philo, qui sont il y a 5 pages thématiques qui reprennent les principaux thèmes du programme de philosophie de terminale, et puis une page consacrée aux philosophes. Et ces pages ont des correspondances, en fait, renvoient sur des fils de podcasts et des émissions à réécouter de toute la grille de France Inter, qui ont été sélectionnées, éditées, triées, etc., sur chaque thème du programme. Donc ça s'appelle Bac Option Inter
sur franceinter.fr.
Sur franceinter.fr et en podcast.
Merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice, merci Aïda Ndiaye, vous avez publié chez Ellipse 16 textes clés pour réussir le bac philo. Merci Martin Legros, merci. Votre mensuel Philomag publie un indispensable guide de survie au bac philo. Et le dernier Philomag, c'est quoi la une?
Sur l'enfance, quelle part d'enfance gardons-nous? Un beau sujet de bac aussi.
Allez, est-il encore possible de fuir le fracas du monde? Ce n'est pas un sujet du bac philo, mais notre thème demain. Et vous avez parfois envie de vous couper du monde, un peu, beaucoup, passionnément, et même de disparaître quelques jours pour souffler et mieux revenir. Nous attendons vos témoignages par courriel, grand bien vous fasse, @radiofrance.com. À la technique ce matin, Arnaud Caillé et Alice Berger.